Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jocelyne Moussa Opondi. Le président de la République vacciné contre la Covid-19, c'était hier à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a, à l'occasion, invité ses compatriotes à faire de même. Les militaires et policiers achèteront désormais le maïs de Kanyama KCC à un prix raisonnable. Affirmation du commandant du service national au lancement hier au Kanchachi des cantines de vente des produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers. Notre invité, c'est le président de la Confédération des négociants et transporteurs miniers du Grand Kivu, Israël Kikuni. David nous parlera de la collaboration de trois provinces sur les transits des minerais par voie aérienne. Bonsoir à tous. Le président de la République a reçu sa première dose de vaccin contre la Covid-19 hier dimanche dans la soirée à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse Denise Nyakeru se sont présentés devant l'équipe du programme élargi de vaccination PEV affecté à ce centre hospitalier. Après l'évaluation des signes vitaux et le règlement des formalités administratives d'usage, le président Félix Tshisekedi et son épouse ont reçu chacun une piqûre du vaccin à l'épaule gauche en présence du ministre de la Santé et publique, Hygiène et Prévention, Dr Mbungani, du conseiller spécial du président chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, et du médecin directeur de la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine, Dr Kangoudia. Dans une interview accordée à la presse présidentielle, le chef de l'État s'est dit soulagé d'avoir pris sa première dose. Il a aussi invité ses compatriotes à faire de même. Écoutez le président de la République dans cet extrait sélectionné par Blaise Chindani.
Bon, ma première réaction, physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc vous voyez que je ne viens pas en cobaye, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi, j'en sais quelque chose, j'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc, par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien. Je suis à 10 minutes déjà. Donc, pour vous dire, tout se passe bien. Donc je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin, évidemment.
Après avoir eu son vaccin, le chef de l'État a annoncé avoir mis à la disposition des membres du gouvernement, de ses collaborateurs ainsi que d'autres personnalités de la République, sa clinique présidentielle pour leur vaccination contre la Covid-19. Au sud Kivu, la tendance à la contamination de la Covid-19 est à la baisse depuis la semaine dernière. Affirmation de la division provinciale de la santé du sud Kivu. Une centaine des malades ont été guéris et une dizaine des malades sont encore pris en charge dans les structures sanitaires. Environ 4000 personnes ont été vaccinées dans cette province. Le point avec Emmanuel et la Mejua Kabedi.
La province du Sud Kivu connaît en ce moment une évolution positive de la troisième vague de COVID-19. Moins de 10 cas positifs enregistrés au cours de la semaine dernière, plus de 150 personnes guéries, une cinquantaine de malades suivis, dont 42 à domicile. Docteur Claude Baïziré, en charge de la communication à la division provinciale de la santé.
Ça évolue dans le bon, il faut que la population quand même le sache, mais il ne faudrait pas aussi qu'il relâche.
Donc le vaccin est disponible en ce moment pour tout le monde?
Oui, oui, pour tout le monde. C'est quand même bon parce que vous imaginez, on était déjà à 400 par semaine. Et puis on est descendu à 300, à 200. Cette semaine, ce qui vient de se passer, on était seulement avec que 6 nouveaux cas. Il y a eu 153 guéris à peu près. Les 1000 et à 2794.
Un lot de vaccins AstraZeneca est en cours de validité au Sud Kivu jusqu'au 30 septembre prochain. près de 4000 personnes ont reçu la première dose, tandis que près de 1500 personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin. Depuis mars 2020 à ces jours, le Sud Kivu enregistre un cumul de 2794 cas, dont 137 décès. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Kinshasa, je l'ai dit dans les titres, la cérémonie de lancement des cantines de vente des produits agricoles du service national au bénéfice des militaires et des policiers a eu lieu hier dimanche au camp Tchatchi. Selon le général-major Jean-Pierre Kabouik, commandant du service national, tous les camps militaires seront approvisionnés en maïs de Kanyama Kasese afin de permettre aux militaires et policiers d'acheter ces produits à un prix raisonnable. Suivez les propos du général recueillis par Jir Lungembo.
Le chef de l'État lui-même veut s'assurer que les militaires et les policiers vont désormais s'approvisionner facilement en maïs auprès de cantines disponibles. Le sac de 25 kilos, ça devra s'acheter au prix de 18 000 francs congolais. Vous-même, vous connaissez le prix des sacs de maïs dans le supermarché. Et ce que propose le service national, c'est des maïs de première qualité. À Lubumbashi, on appelle ça break. Et à Kinshasa, c'est moule. Donc, aujourd'hui, les familles des policiers et les militaires, avec leur salaire, ils pourraient s'acheter un sac de maïs sans problème. Ça sera disponible dans tous les camps militaires, à savoir camp Kokolo, camp Seta, camp Kabila et camp Lufungula. Des familles des militaires vont s'approvisionner tous les jours et il n'y aura jamais rupture.
Au même moment, en mission au Kasaï oriental, le ministre en charge du développement rural a inauguré le week-end 5 grands marchés ultramodernes dans les territoires de Chilenge, Miabi et Lupatapata. Il s'agit des ouvrages financés par la Banque africaine de développement. À Mbujimayi, le compte rendu d'Esther Ndalafina.
Deux marchés ont été inaugurés samedi dans les territoires de Chilenge, un marché dans la cité portant le même nom et un autre à Lukalaba. Le dimanche, François Robota a inauguré trois marchés modernes, deux dans la cité de Miabi et un autre à Chibombo Village dans les territoires de Lupatapata. Ces infrastructures construites par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises en sigle avec le financement de la Banque africaine de développement BAD ont pour but de lutter contre les maladies diarrhéiques dans les milieux ruraux. Les marchands peuvent désormais exposer leurs produits vivriers sur les étagères en béton armé au lieu de les étaler au sol sur les petits sacs. D'autres objectifs sont ceux de rendre ces marchés quotidiens au lieu d'être hebdomadaires ou opérationnels un seul jour de la semaine. Ces nouvelles infrastructures épargnent aussi les marchands des intempéries, des anciens hangars régulièrement incendiés par les personnes non autrement identifiées. Signalons que le ministre d'État en charge de développement rural a aussi inauguré les mini-réseaux d'adduction d'eau potable à Miabi, à Katende dans les territoires de Kabiakamanga, à Chibombo Village et à Lukalaba dans les territoires de Chilenge. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Au moins 216 nouveaux cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont été enregistrés au premier semestre de l'année en cours, soit un nombre plus élevé que l'année dernière à la même période. C'est du moins ce qu'a rapporté le week-end à Goma l'unité escadron protection de l'enfant et prévention contre les violences sexuelles, ville de Goma. La police civile de la MONUSCO, UNPOL et la PNC tirent la sonnette d'alarme contre ces violences. La commissaire supérieure et commandante second de l'escadron protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles, ville de Goma, revient ici sur les conséquences de ces violences. On l'écoute dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga.
Les statistiques, il y a un taux élevé. La violence à l'égard des femmes multiplie des conséquences physiques et peut nuire à la santé de la reproduction, notamment les blessures, des fractures, des lésions, des maladies chroniques, souvent des conséquences mortelles comme les fémicides, la suicide, la mortalité maternelle. Lorsqu'ils commettent leur forfait, ils pensent qu'ils ne seront jamais attrapés. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des traces sur la scène de crime et ça nous aide à reconstituer les faits une fois soit condamné au tribunal, il y a des conséquences par rapport à sa famille. Il y a des dommages collatéraux. Et s'il est un militaire ou soit un policier condamné avec des circonstances aggravantes, voire même il s'est fait radier des forces armées et il va perdre son boulot. Et il faut que les gens se mettent en tête que ce n'est pas quelque chose de facile qu'on peut prendre avec légèreté. Il faut assumer et voir les risques avant de commettre de telles atrocités.
À Bandundouville, dans la province du Kwilu, l'association des jeunes responsables, une ONG locale, a, elle, lancé le week-end une campagne de sensibilisation dénommée « Mwasila Tamalamu », traduisée « Femme, habille-toi décemment ». Cette campagne, qui s'est faite dans les instituts supérieurs et autres lieux publics, a pour but de réduire la recrudescence des infractions liées aux violences sexuelles. Pour Prosper Gatamatambou, responsable de cette structure citoyenne, l'article 176 du code pénal congolais interdit tout comportement visant à outrager les mœurs. Prosper Gata Matambou est au micro d'Irène Boma.
Dans le souci de battre en retraite la recrudescence des infractions liées aux violences sexuelles, l'ONG AGR a lancé la campagne intitulée « Mwasila Tamalamu ». Mwasila Tamalamu, nous voulons que la femme revienne dans le bon sens. Nous ne voulons plus voir la femme exhiber ses parties intimes dehors, se promener presque à moitié nue, pendant que c'est un comportement fustigé par l'article 176 Code pénal congolais livre D qui stipule « Quiconque aura publiquement outragé le mœurs par des actions qui blessent la pudeur sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 3 ans et d'une amende ou d'une de ses peines seulement. » Le message fort à la population, surtout à la femme, c'est de s'habiller décemment, de se comporter au regard de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Que la population ne puisse pas crier au scandale, à la tracasserie policière, non. C'est un comportement qui est déjà réprimandé dans nos lois du pays.
En bref, les activités économiques sont restées paralysées ce matin à travers toute la ville de Beni. Les maisons de commerce n'ont pas ouvert leurs portes. Cela fait suite au mot d'ordre des deux journées ville morte lancées par la coordination urbaine de la société civile pour protester contre l'insécurité grandissante dans la ville. Pour son président Pépin Kavota, ces deux journées seront observées sous méditation afin de prier pour les autorités de l'état de siège afin de restaurer la paix et la sécurité dans la ville de Beni, qui fait face ces dernières semaines à des vols à main armée pendant les heures de couvre-feu. La veille, le maire s'était opposé à cet appel de la société civile, tout en appelant les habitants à vaquer librement à leurs occupations. Il avait dit regretter cette position de la société civile. Et puis en Ituri, la carence des produits des premières nécessités s'observe dans plusieurs centres commerciaux dont Komanda, dont la chefferie de Basili au sud du territoire d'Irumu. C'est la conséquence de la suspension du trafic pendant plus d'une semaine sur l'axe Komanda-Luna qui permet de ravitailler ces entités en produits manufacturés provenant du Nord Kivu et de l'Ouganda. Les habitants plaident pour l'augmentation des effectifs des militaires dans les zones de combat pour désenclaver ces centres commerciaux malgré la reprise des escortes depuis vendredi sur cette route par la MONUSCO et les FARDC. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La plupart des transporteurs qui quittent la ville de Bounia en direction de Beni au Nord Kivu voisin sont obligés de passer deux ou trois jours, voire une semaine à Komanda en attente de la programmation des convois. La timidité du trafic sur cet axe met à mal les conducteurs des engins ainsi que les usagers qui effectuent le trafic sur cet axe. L'un d'eux exprime son impatience.
Vraiment, on a tout ça.
En tout cas, nous souffrons. Nous faisons face à une crise économique. Nous vivons du trafic sur cette route. Pas seulement les chauffeurs, même tous les habitants de Bounia. Vous dépensez de l'argent, nous vivons comme des déplacés.
Mouna quoi ça va déplacer?
Cette situation est exacerbée par l'augmentation des effectifs des déplacés internes estimés à plus de 30 000 personnes qui ont fui ces attaques dans les chefferies de Walese Vonkutu, Tchabi et Boga, indique la société civile locale. Gili Gotabo.
Cette trafic-là a baissé vraiment l'économie de notre territoire. Beaucoup des affaires sont vraiment mal nourries suite à la hausse des prix des denrées alimentaires.
Signalons que malgré la reprise du trafic vendredi dernier sur ces taxes, avec les concours de la MONUSCO et les FARDC, l'armée poursuit toujours des opérations dans cette zone afin de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap plaide pour la prise en compte des besoins des personnes vivant avec handicap. D'après elle, plusieurs étudiants vivant avec handicap abandonnent les études pour plusieurs raisons, dont la stigmatisation et les frais académiques jugés exorbitants pour cette catégorie d'étudiants. Les détails avec Jean Gandou.
C'est au cours de la troisième journée des assises des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire que la ministre est intervenue. Irène Sambo a fait un plaidoyer en faveur d'une éducation inclusive de tous les étudiants, plus spécialement de ceux vivant avec handicap. Pour elle, ces étudiants ne se sentent pas soutenus tout au long de leur parcours académique. Le cas de ceux qui ont des problèmes de communication et qui doivent suivre les cours dans les mêmes conditions que les autres. Elle propose qu'au sein de chaque institution d'enseignement supérieur et universitaire soit créé un service ou une direction chargée de recevoir les étudiants vivant avec handicap pour qu'ils expliquent leurs difficultés et qu'ils soient orientés dans le but de leur permettre d'étudier aussi dans de bonnes conditions. À ces difficultés s'ajoute aussi la question relative aux frais d'études qu'elle trouve exorbitants pour les personnes vivant avec handicap qui sont dès le départ victimes de la stigmatisation même au sein de leurs familles respectives. Ainsi, elle plaide pour que ces frais académiques leur soient allégés. Irène Sambo.
Être handicapé, c'est un problème au-delà de la formation mais de l'acceptation. Et ça commence même au niveau de la famille. Beaucoup de parents négligent les études de leurs enfants. Voilà pourquoi je fais encore ce que vous voyez, pour demander à ce qu'il y ait un allègement des paiements des frais.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Situation en Afghanistan pour le chef de l'ONU. Il est très important de discuter avec les talibans lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion ministérielle à Genève, en Suisse, ce lundi. Antonio Guterres a déclaré, je cite, « Il est impossible de fournir une assistance humanitaire en Afghanistan sans discuter avec les autorités de facto du pays. Je crois qu'il est très important de discuter avec les talibans en ce moment. » Fin de citation. La réunion à Genève doit permettre de lever plus de 600 millions de dollars d'aide pour les organisations humanitaires dans ce pays. Deux transporteurs marocains ont été tués au Mali hier dimanche. Leur camion a été attaqué par des hommes armés à Didieni, dans le cercle de Koulikoro. On ignore l'identité des assaillants. La zone est plutôt réputée pour les actes de banditisme. Elle n'est pas spécialement fréquentée par les terroristes djihadistes, du moins elle ne l'était pas jusqu'à récemment. Mais c'est justement ce qui est en train de changer.
L'invité.
Israël David Kikuni est notre invité. Il est le président de la CONECOMA, la Confédération des négociants et transporteurs miniers du Grand Kivu. Il nous parle de la collaboration de trois provinces sur le transit des minerais par voie aérienne. C'est après avoir conclu un protocole d'accord avec les autorités provinciales de l'ancien Kivu, dont le Maniema, le Nord et le Sud Kivu. Quels sont les avantages pour la province du Maniema enclavée, par exemple, et pourquoi il fallait collaborer avec d'autres provinces? Réponse dans cet entretien avec Mathieu Ilunga.
Monsieur Israël David Kikuni, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi on doit user les transports aériens des minerais du Maniema au détriment des voies ferrées et terrestres qui sont dans cette province?
D'abord, je suis président provincial des négociants de la province du Maniema. Je suis président de la Fédération des coopératives minières du Maniema, en sigle FECOMIMA. Aujourd'hui, les trois provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, ont accordé encore être président de cette île, la CONECOMA. Alors, par rapport à votre question, nous sommes là pour éclairer l'opinion. Il n'y a pas question au détriment de la voie ferrée et la voie terrestre. Le transport des minerais, ça dépend de la personne. Ce n'est pas exigé à tout le monde. Mais nous, par rapport à la situation routière de notre pays, chez nous, dans le Maniema, la province est tellement très enclavée, on n'a pas de route. Alors, on avait sollicité auprès des trois gouverneurs de nous accorder cette libre circulation et la commission des minerais. Et sur base de cela, celui qui veut prendre la voie ferrée, qu'il le prenne. Celui qui veut faire la voie terrestre qui les prennent. Mais nous, on a préféré la voie aérienne qui est très rapide et ça ne pose pas de problème. Parce que quand il pleut, il a l'impraticabilité de dépasser nos produits miniers. Et c'est à cause de cela qu'on avait demandé aux autorités le temps que le Congo se donne aujourd'hui pour améliorer l'état de nos routes. Et on a sollicité auprès des autorités. Ce n'est pas au détriment.
À votre niveau, quels sont les avantages de transporter les minerais du Maniema en transit vers d'autres provinces?
Ce n'est pas seulement le Maniema. C'est un aspect qui relie les trois provinces. Même si les minerais décide Kivu peut transiter au Maniema, peut transiter ici au sud de Kivu. Même les minerais du nord Kivu peuvent transiter au Maniema et au sud de Kivu. C'est la question qui relie les trois provinces. Ce n'est pas le Maniema seul. Et de deux, ce n'est pas un transfert de minerais. Le protocole d'accord signé avec les trois autorités, c'est après avoir payé tous les frais liés à l'exportation. Quand les frais payés à la province d'origine, maintenant, on peut prendre les minerais dans les transports aériens pour transiter au nord et au sud de Kivu. Alors, les avantages, comme chez nous, on n'a pas de route, quand les petits avions font les transports, on prend les produits pharmaceutiques, on prend les vivres qui facilitent la population là-bas, l'avion n'ira pas à vide. On amène les produits alimentaires et au retour, on embarque les minerais. Deuxième avantage aussi au niveau du Maniema, si on avait sollicité cette transaction pour cette circulation pour trois provinces, par rapport au aussi au prix des minerais que nous sommes imposés sur le terrain. On nous impose le prix sur le terrain à Pugna aujourd'hui. Un kilo de cassérite, c'est 7 $ à 8 $. Différemment, à Goma et à Bukavu, c'est 15 $ par kilogramme. Et maintenant, cet écart, les transports terrestres et ferriers est moins coûté. Mais ça nous pose toujours problème par rapport à la durée des transports. Ça prend 2 ou 3 mois et ça réduit le prix. Mais si ça facilite de l'avion décolle, quelques minutes après, une heure après, l'avion arrive à la destination. Et ça nous permet cette rapidité-là. Et puis, l'exportateur, il a la facilité de déplacer les minerais très rapide. Ce n'est pas question de transfert.
Ce que vous appelez branche de la société civile parle en faveur de la population en disant que si les minerais du Maniema sont transportés sur les voies ferrées et terrestres, ça peut donner l'occasion à ce qu'on puisse réaménager et réhabiliter les voies ferrées et les voies routières.
On ne peut pas faire un débat à ce sujet. Mais notre souhait que nous devons montrer à l'opinion, ce n'est pas un transfert de minerais qui pourra se faire. Les minerais du Maniema, on va payer les frais liés à l'exploitation. La première des choses. Et par rapport à la voie terrestre et ferrée, ça posait des préjudices énormes. Normes dans les Maniema. Les statistiques chaque mois, ça évalué de 300 tonnes à 500 tonnes chaque mois. Mais aujourd'hui, des statistiques et des produits, vous pouvez d'abord se renseigner à la division des mines, vous pouvez se renseigner au CSC-CMAP, ça varie aujourd'hui de 100 tonnes, ça est 20 et ça 50. Difficilement pour arriver de 100 tonnes. Et quand déjà cette statistique est trop bas, c'est le Maniema qui est en train de perdre. Parce que comme il n'y a pas de route, les minerais du Maniema maintenant traversent dans des provinces voisines par fraude. Et c'est pour cette raison qu'on avait associé d'autres provinces pour aussi de savoir bien canaliser toute statistique des produits miniers du Maniema. C'est ça l'objectif. Parce que le Maniema est en train de perdre. Au lieu d'avoir 400 tonnes chaque mois, nous sommes à moins de 200 tonnes, à moins de 150 tonnes. Différence des produits, ça va où? Il y a des mines, les mines qui sont proches des provinces voisines. Quand ils voient la province voisine, il y a la facilité de prendre des minerais, arriver à la destination, ils amènent ça là-bas. Par camion, c'est tellement difficile. Alors, pour éviter cela, on a demandé aux autorités provinciales qu'on nous accepte cette voie aérienne. Ça va permettre aussi le Maniema de bien capitaliser sa quantité et sa production. Maintenant, les deux provinces se soutiennent aussi pour éviter cette fraude minière qui se passe dans notre province.
Je vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.